Depuis plus de 60 ans, Cheminée Charrier Artisan RGE vous conseille dans vos besoins de chauffage. Chez Cheminée Charrier, aucun sous-traitant. Techniciens, installateurs, tailleurs de pierre, ramoneurs, commerciaux sont là pour répondre à votre projet et vous apportent un service unique sur le marché local, le sur-mesure. Poussez les portes de notre magasin pour y découvrir poêles, inserts à bois et granulés, cheminées sur-mesure, fabriquées dans nos ateliers à Moise. Plus de 50 modèles exposés en magasin, dont plusieurs en fonctionnement. Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort. 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr. Cheminée Charrier, l'artisan de votre belle flambée depuis 3 générations.
Toute l'information locale et départementale sur Demoiselle FM.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous, et tout d'abord à La Rochelle, hier après-midi, 800 personnes rassemblées à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, organisée par plusieurs associations et syndicats, dont Nous Toutes, le planning familial, la CGT et la FSU. La manifestation a débuté vers 15h sur la friche du Gabu. Les participants ont évoqué différents thèmes comme l'égalité salariale, les violences sexuelles et sexistes, les droits des femmes immigrées ou encore la situation des enfants victimes d'abus sexuels. La Fédération des centres sociaux de Charente-Maritime s'invite dans le débat au municipal. Dans un communiqué, la Fédération a souhaité se rappeler au bon souvenir des candidats, tout d'abord pour souligner le rôle des 24 centres sociaux et des 17 espaces de vie de la Charente-Maritime, et aussi et surtout pour souligner le nécessaire soutien financier des municipalités pour le bon fonctionnement des centres. Raphaël Cerniaud, co-délégué à la Fédération des centres sociaux.
Les centres sociaux, c'est des financements publics. À ça vient en plus une part de participation des habitants, puisqu'il y a des services qui sont rendus et ces services ils sont vendus aux habitants. Quand on vient dans un accueil de loisirs, on paye. Quand on vient dans une crèche, on paye une partie. Mais la majorité de une grosse partie du financement des centres sociaux, c'est des financements publics, que ce soit par la CAF, par les communes, par le département, par l'État aussi parfois. Pour permettre de mener des actions d'animation de la vie sociale, d'animation de quartier, d'animation de proximité, des temps festifs qui sont parfois difficilement quantifiables en termes de valeur, parce qu'en fait ils se construisent au quotidien avec les habitants. Quand on fait une fête de quartier, les habitants ils ne payent pas, ils ont contribué, ils sont engagés pour faire vivre cette fête de quartier, et derrière on produit de la joie, de la fête, de l'engagement, mais qu'on va pas forcément quantifier financièrement. Et du coup, pour que ces temps-là puissent se vivre, pour qu'une sortie collective puisse se vivre, pour qu'un temps festif, pour que des ateliers organisés par les habitants pour être à l'aise dans leur peau ou des choses comme ça, il faut des financements publics.
La Fédération souhaite également rappeler que les centres sociaux ne sont pas des agents municipaux. Leur indépendance doit être préservée, souligne Raphaël Cerniaud.
Se dire que les centres sociaux ne sont pas juste là pour effectuer un service municipal, mais qu'ils ont une véritable autonomie. Les centres sociaux sur le territoire, ils sont tous associatifs. Et du coup, ils ont un projet autonome, ils ont une identité, ils défendent des valeurs essentielles, la démocratie, la citoyenneté, la solidarité, la dignité humaine. Et ce qui est important, c'est que pour nous, c'est que les élus municipaux reconnaissent cette indépendance, la soutiennent et considèrent que c'est une richesse pour leur territoire d'avoir sur un territoire des associations avec des bénévoles et des salariés qui s'engagent pour rendre acteurs et autonomes et renforcer la capacité d'agir des habitants sur un territoire.
Et au total, en Charente-Maritime, les centres sociaux représentent 1020 salariés et plus de 3700 bénévoles. La libre pensée de Charente-Maritime s'insurge contre la réinstallation d'un chemin de croix à Saint-Cyr-du-Taillon, près de Jonzac. Il a été réinstallé après des travaux de restauration. Le chantier mené par la municipalité s'est achevé avant la fin du mandat dans l'équipe sortante. Une inauguration officielle a eu lieu en présence du maire et du curé des paroisses du pays de Mirambeau. La commune a pris en charge l'achat des matériaux nécessaires à cette réhabilitation. Mais la libre pensée s'interroge sur la conformité de ces travaux avec la loi de 1905 sur la laïcité qui encadre strictement le financement public des symboles religieux. Il serait peut-être urgent de réaffirmer la neutralité nécessaire des élus républicains dans l'exercice de leurs fonctions et donc de faire respecter la loi, surtout en période électorale, écrit l'association. Une année 2025 particulièrement riche pour la Fondation du patrimoine en Charente-Maritime. Les responsables de l'organisation évoquent une activité soutenue et une année d'engagement. 5 nouvelles collectes ont été ouvertes en 2025 et 18 sont actuellement en cours. Les donateurs et mécènes ont encore été généreux l'an dernier. Patrick Ferrer, le délégué départemental de la Fondation du patrimoine.
C'est 1,3 million entre tout ce qui est les collectes des particuliers et ce qui est les engagements des entreprises au titre du mécénat. Mais en même temps, si vous voulez, au-delà de l'aspect financier, ce qui est intéressant, c'est cette envie des collectivités, notamment, de créer un engouement de la population, un engouement des administrés autour d'un projet de restauration. C'est-à-dire, on n'est pas là pour aider financièrement, mais on a envie d'accompagner, on a envie de participer à l'aventure de la restauration telle qu'elle est présentée par la collectivité locale. La Fondation du patrimoine est au niveau national et sous la tutelle de la Cour des comptes. Hein. Donc je crois qu'il y a effectivement une renommée de sérieux dans nos activités.
Et parmi les collectes les plus emblématiques, celles consacrées au Fort Boyard, mais aussi l'église de Saint-Denis-d'Oléron.
C'est d'abord la restauration de l'église de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis-d'Oléron, où nous avons des responsables municipaux qui vraiment, et notamment Monsieur le maire, qui vraiment s'est impliqué dans la volonté de réussir cet appel au don et au mécénat. Et effectivement, au début, on avait des perspectives, on va dire, habituelles. Et là, on arrive à 150 000 euros collectés sur Saint-Denis-d'Oléron, ce qui est tout à fait remarquable pour ce type de commune. Le deuxième, évidemment, la deuxième collecte emblématique, c'est Fort Boyard. Là, on est sur du lourd. Donc, Fort Boyard, avec tous les engagements du conseil départemental, de nombreuses communautés de communes, petites communes qui s'engagent aussi à nos côtés pour réussir cette restauration et participer là aussi à l'aventure que va être la restauration, mais surtout son ouverture au public de Fort Boyard, qui pour l'instant reste un peu secret pour tout le monde. On tourne autour, mais on ne rentre pas dedans.
Des temps forts en 2025, l'inauguration de sites soutenus par la Fondation du patrimoine comme la maison Pierre Loti à Rochefort, la Porte des Morts des Arènes de Saintes, la Poudrière à Saint-Martin-d'Ré, l'église d'Aulnay de Saint-Onge et la bénédiction des nouvelles cloches de l'église Saint-Sauveur à La Rochelle. Par ailleurs, 17 labels ont été attribués à des propriétaires privés pour la restauration de leurs biens d'intérêt patrimonial et 3 projets ont été soutenus par le club des mécènes du patrimoine de Charente-Maritime. Il est 12h13 sur Demoiselle, on se retrouve dans un instant.
Écoutez, vous venez d'entendre des prix cassés chez Conforama Rochefort. Avant travaux, la liquidation fait chuter les prix sur les articles signalés en magasin dans la limite des stocks. Conforama Rochefort casse les prix du 10 mars au 13 avril, 18 avenue du Pont-Rouge à Tonnet-Charente. Liquidation par autorisation municipale 2025-12 33 069.
Envie d'évasion, de découverte ou d'aventure inoubliable? Alors ne manquez pas les circuits et séjours Michel Voyage. Le circuit, les lacs italiens et Venise du 24 septembre au 1er octobre, tout compris au départ de Rochefort avec vol, pension complète et visite pour 1 729 €. Le séjour, Salamanque en liberté. L'une des plus belles villes d'Espagne du 13 au 16 octobre avec hôtel 3 étoiles, demi-pension et petit déjeuner pour 431 € par personne. Programme complet et inscription à l'agence Michel Voyage, un chemin de l'air de loisirs au Vergeron. 05 46 87 56 28 ou sur le site bgtour.fr. Avec Michel Voyage by BG Tour, voyagez en toute confiance.
Pour découvrir les meilleures spécialités d'Asie, avec une cuisine raffinée, il n'y a qu'une seule adresse à Rochefort, Buffet d'Asie.
Dans un esprit convivial, venez profiter de leur buffet où entrées et plats chauds vous régaleront.
Pour les entrées, venez apprécier les nems, sushis, salades, fruits de mer, en plats chauds, grillades, wok, saumon, rôti, gigot d'agneau.
Les accompagnements, légumes, riz ou pâtes chinoises, rien ne manque.
Pour les plus gourmands, le buffet des desserts et sa fontaine de chocolat.
Du lundi au vendredi le midi, buffet à 18,60€.
Les soirs de semaine, week-end et jours fériés, buffet à 25,90€. Boissons non alcoolisées à volonté.
Buffet d'Asie, ouvert du lundi au dimanche soir, Zach Villeneuve-Montigny, sortie Rochefort, direction La Rochelle.
Restaurant fermé le mardi.
Avec Buffet d'Asie, faites voyager vos papilles.
Demoiselle, à Rochefort, 97,8.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Municipal 2026, fin de notre tour d'horizon des candidatures à Saintes avec la liste Saintes demain, une liste d'union de la gauche qui rassemble PS, le PC, les écologistes, Place Publique, le PRG, Génération S et l'après Alliance pour une République écologique et sociale. Une liste d'union dont la tête de liste est Ludovic Norijon. Il répond aux questions d'Adrien Vivenne.
Ludovic Norijon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc la tête de liste pour les municipales à Saintes, pour la liste Saintes demain. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît ?
Eh bien, je suis Ludovic Norijon, j'ai 36 ans, je travaille dans la filière du cognac chez Rémy Martin et effectivement, je suis tête de liste de Saintes demain, qui est la liste d'Union de la Gauche pour les municipales 2026.
Union de la Gauche, ça regroupe quel parti ?
Alors, soutiennent cette liste le Parti Socialiste, Place Publique, le Parti Communiste, les écologistes, le PRG, Génération S et l'après.
Pourquoi vous avez voulu y aller ? Qu'est-ce qui a motivé cette candidature ?
Alors moi, j'ai toujours été engagé. C'est toujours là où je me suis senti le plus utile. D'ailleurs, j'ai pris l'engagement, de si on était élu, de me dédier 100% à la fonction, de démissionner de mon travail. Par le passé, j'ai déjà été élu sur l'agglomération. J'étais premier adjoint sur la commune de La Jarre, qui est juste à côté de Saintes. Et puis naturellement, voilà, suite à mon aménagement sur Saintes, c'était dans la continuité de mon engagement de poursuivre un projet pour les municipales. Et puis rapidement, une équipe s'est constituée autour de moi et nous avons créé cette liste d'union de la gauche qui permet, d'ailleurs, c'est une chose qui s'est pas fait depuis longtemps sur Saintes, puisqu'il y avait de fortes divisions à gauche, c'est sur les deux derniers mandats. Nous avons réussi cette union de la gauche pour présenter un projet humain et durable pour la ville de Saintes.
Et c'est quoi ce projet exactement ?
Alors ce projet, nous l'avons divisé en trois axes. Mais avant de parler des trois axes, c'est une méthode aussi. Nous, on a dénommé ça « gouverner autrement ». Donc c'est une équipe, une méthode et des engagements pour valoriser plus la transparence dans les décisions publiques, respecter le droit de l'opposition, promouvoir et garantir la mixité sociale. Et puis nous voulons créer une assemblée citoyenne dès 2026 et mettre en place des comités et des référents de quartier, ce qui sera une nouveauté quand même dans la gouvernance de la municipale à Saintes, qui est aujourd'hui clairement pas sur la démocratie participative. Et pour la suite, sur les trois axes, nous avons trois axes qui sont attractivité de la ville, et notamment du centre-ville, la révolution des mobilités, nous sommes en retard sur les mobilités, mobilités douces, et puis nous avons un volet service de proximité et service public pour nos citoyens.
Un programme qui se construit sur le bilan du maire sortant, vous l'avez fait, quel bilan vous faites du mandat de Bruno Drapron ?
Alors nous, bien sûr, quand on fait le bilan du mandat de M. Drapron, on trouve qu'on est très en retard sur les axes que nous présentons, puisque clairement nous ne sommes pas sur les mêmes positionnements politiques. Nous trouvons que sur la partie notamment des mobilités, on est très en retard par rapport aux autres villes de même taille. Sur l'exercice de la gouvernance et de la démocratie, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, donc on a tout à faire sur ce volet-là, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nos citoyens s'abstiennent, c'est parce qu'ils se sentent très loin des décisions, et notamment des décisions concernant l'utilisation des deniers publics. Et puis après, on a un gros morceau sur l'attractivité dont je vais vous parler. Comment redynamiser cette ville ? On a un centre-ville qui se meurt, on est en retard sur les logements. On a un projet phare que nous soutenons qui est le Ferro Campus, qui est un centre de formation qui préparera nos jeunes au métier du train, du futur du train. Donc tout cela, ça s'anticipe, ça s'accompagne. Et sur tout cela, nous trouvons très en retard.
Vous parlez de transparence, de démocratie citoyenne. C'est quelque chose qui manque ou c'est quelque chose que vous dénoncez chez le maire actuel ?
Bon, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans un exercice qui est plutôt, on va dire, historique, qui est classique, mais qui n'est plus, à notre sens, dans l'air du temps. On doit arrêter ces modèles qui sont très verticaux et intégrer au maximum les citoyens dans les décisions, effectivement être plus transparent et aussi partager la gouvernance avec les citoyens, les consulter sur des projets structurants et puis faire redescendre la citoyenneté et la démocratie dans les quartiers, qui pour nous est un axe très important. Donc nous avons prévu des assemblées par quartier, notamment pour utiliser des budgets d'aménagement sur lesquels ils seront consultés pour que les besoins des citoyens soient pris en compte dans les décisions et qu'on soit au plus près des besoins de nos habitants.
Est-ce que votre programme comporte des grands projets qui seront une priorité de votre mandat si vous êtes élu ?
Alors pour nous, les priorités sur les différents axes, c'est l'aménagement du centre-ville. On a un centre-ville qui est plutôt assez figé dans son aménagement. Donc ça, c'est une priorité du centre-ville. Nous avons aussi sur les mobilités, et qui est en lien avec l'attractivité, nous voulons refaire la passerelle Rozinski, alors qui s'appelle maintenant Madeleine Chapsal, qui lie la rive droite à la rive gauche, qui est vieillissante et qui est uniquement piétonne. Nous voulons la rendre piétonne et cyclable. Nous avons aussi, nous voulons rénover ce qu'on appelle le terrain blanc qui est à côté de l'espace Mendès France, pour que ça soit un vrai point d'accueil dans la ville, et végétaliser ce parking. Et puis nous avons tout ce volet, comme je vous disais, démocratie participative, où nous avons beaucoup beaucoup de choses à faire. Et après, il y aura deux autres volets qui seront partie de nos priorités, c'est le logement et l'accès à la santé, et notamment aux soins spécifiques.
Sainte a subi donc une inondation, elle a subi encore, même si la décrue est en cours. Troisième en 5 ans, une crue historique. Est-ce que vous avez prévu, est-ce que cette lutte ou l'aménagement de la ville face aux inondations est aussi une de vos priorités ?
Bien sûr, ça fait partie de nos priorités, et d'ailleurs c'est en lien direct avec l'attractivité de la ville, puisque forcément, 3 crues en 5 ans, vous imaginez bien que en termes d'image et puis en termes de réputation, ce n'est pas l'idéal pour attirer des familles et pour attirer des entreprises. Et puis, bien sûr, il y a tous les dégâts, tous les enjeux qu'il y a pour nos habitants dans les zones concernées. Donc nous avons un plan en 3 phases. Une phase amont qui est alliée avec toutes les autres intercommunalités, avec l'État sur le bassin amont de la Charente. Et pour ça, il y a un organisme qui s'appelle le PTB, qui est en charge de cette partie-là, et notamment avec la taxe Chemapi. Là, il faut qu'il y ait des aménagements en amont pour réduire un maximum ces impacts-là. Nous avons un enjeu au plan communal de verdissement et de désimperméabilisation des sols. Et puis, je crois qu'il y a une partie amélioration de la gestion de crise et d'anticipation que nous devons mettre en place quand il y a des crues historiques.
Ludovic Nourigeon, merci.
Je vous en prie.
Un prochain rendez-vous de la liste Sainte demain soir au hall Mendès France. Municipal encore à Doulouse-Doléron, la candidate du RN Emma Valin et son équipe organisent une réunion publique à la salle des fêtes ce soir à 18h30. Et puis au Château d'Oléron, dernier conseil de mandat pour le maire Michel Parron et son équipe municipale ce soir, à l'ordre du jour les taux d'imposition et budget primitif 2026 ou encore une subvention pour les travaux de Fort Boyard.
Demoiselle, tout le sport.
Et il est temps de retrouver les résultats sportifs du week-end avec Patrick Adrien Sens.
Bonjour à toutes et à tous, amis sportives et sportifs. On commence les résultats de ce week-end par du rugby en Fédéral 2. Surgères, ce week-end, s'est incliné à Lormont 30 à 18. Des Surgériens qui sont donc toujours à 4 points du stade de Bordelais pour le maintien à 4 jours de la fin du championnat. En Fédéral 3, nous allons vivre vraisemblablement 3 dernières journées palpitantes. Le SAR s'est imposé à Sainte sur le score de 40 à 17. Le Royan section rugby s'est incliné 2 peu à Léognan, 44 à 35, ce qui fait qu'actuellement, le Sarre occupe la troisième place à 2 points du leader Gradignan. Par contre, pour Royan et Sainte et Léognan, c'est le coude à coude pour le maintien. En football, mauvaise opération des Rochefortais qui se sont inclinés à Thouars 3-2. Le maintien en R1 s'éloigne tout doucement pour les Bleus et Blancs, alors que Périgny a fait un bon résultat en arrachant le match nul à Brive, 1-1. Du handball, samedi soir en Pro League, courte défaite des Saintais à Caen, une des locomotives de ce championnat, sur le score de 32-31. En excellence régionale masculine, Saint-Hilaire-Saint-Jean s'est imposé aux dépens de Rochefort, 35-33. Royan-Saint-Georges n'a pas fait de détails face à la lanterne rouge Carbon Blanc, 47-31. Et puis en pré-nationale féminine, les Rochefortais se sont imposés d'une courte tête, 29-28, dans leur salle face à Gonpontouvre. Du basket maintenant, avec vendredi soir en Élite 2, la victoire du Stade Rochelet face à Denain, 89-75. En nationale 2 féminine, on reprend un petit peu espoir pour les Rochelaises. Elles se sont imposées 91-54 face à l'équipe espoir de la Roche-Vendée. Elles peuvent encore se maintenir. En régionale de féminines, ce sont les playoffs. Les Saugeonnaises ont été battues à Tulle 66-64, alors qu'en régional de masculine, les Saintais sont allés s'imposer au Stade Rochelet 67-59. Et on finira avec du volleyball en Ligue B. Énorme surprise samedi soir, les Pirates Royanais se sont inclinés dans leur salle face à l'AS Ilacaise sur le score de 3-7-1. Ils restent à la deuxième place du championnat. Et puis en national 3 chez les dames, vainqueur des Saintaises sans problème face à Rosé, 3-7-0. Alors qu'en National 3 masculine, les Rochelais ont été battus dans leur salle par Neptune Nantes sur le score de 2-7-3. Voilà donc les résultats principaux de ce week-end.
Patrick, merci. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Des nouvelles du ciel avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Un ciel hésitant, hein, Michael.
Ah bah oui, hein, tout à fait. Cet après-midi, de nouvelles averses modérées, parfois ponctuées de coups de tonnerre, peuvent se faire sentir. Le soleil, lui, sera aussi présent avec quelques apparitions. Entre les averses et le vent, de secteur sud restera faible. Les températures cet après-midi, 16 à 18 degrés. 16 degrés à Saint-Hippolyte, 17 degrés à Bussac-sur-Charente, 18 degrés du côté de Gémozac.
L'élégance, c'est d'abord une question d'harmonie. Alors pour mes fenêtres, mes stores et mes volets, j'ai choisi Storiste de France. Comme tout est fabriqué sur mesure et en France, je suis sûre du résultat et de la qualité de pose. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
La maison du store, Storiste de France, c'est 2 adresses. Chemin du Puy-Vineux à Rochefort, après le rond-point de l'avion, direction La Rochelle, et 92 avenue de Bel Air à Saint-Pierre-d'Oléron.
Storiste de France. Fenêtres, stores, volets.
Conditions sur storistedefrance.com.